Bonjour Isabelle Bril.
Bonjour.
Je vous remercie d'avoir accepté cet entretien dans le cadre du programme PEA. C'est un plaisir de vous recevoir ici à l'INALCO. Avant de commencer cet entretien, je vais vous présenter très brièvement. Vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS, que vous avez intégré en 2001. Vous êtes rattachée au LACITO, qui veut dire langue et civilisation à tradition orale. Et vous êtes en plus, depuis 2014, directrice d'études à l'EPHE. Alors, vous vous êtes spécialisée dans votre carrière sur les langues austronésiennes. Je vous propose qu'on entame cet entretien par cette question des langues austronésiennes. Est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement ces langues, nous dire qui sont les locuteurs des langues austronésiennes, combien de langues y a-t-il, où sont-elles parlées, enfin, ce genre de questions qui nous permettent de cerner un peu plus les langues austronésiennes.
Bien. Donc, les langues austronésiennes, d'abord, à propos de leur nom, ça veut dire les langues des îles du Sud. C'est une très grande famille qui couvre l'essentiel du Pacifique, de l'océan Pacifique, dont le berceau est maintenant reconnu comme étant à Taïwan, mais qu'on appelait Formose anciennement. Et c'est une famille de langues qui s'étend à travers le Pacifique jusqu'à l'est, en Polynésie, et qui inclut Hawaï et l'île de Pâques. Mais elle inclut également dans l'océan Indien le malgache parlé à Madagascar. Alors, par contre, ce que cela exclut, c'est les langues d'Australie et les langues de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui ne font pas partie du tout de cet ensemble austronésien. Ça ne fait pas du tout partie de cette famille. Pour ce qui est du nombre de locuteurs, alors c'est extrêmement variable. Ça va de quelques centaines de millions, par exemple aux Philippines ou en Indonésie, à quelques centaines, parfois moins, sur des îles, des petites îles du Pacifique, comme au Salomon, Vanuatu et même en Nouvelle-Calédonie. Pour ce qui est de l'extension de cette famille, donc, en fait, il y a deux ensembles, ça comporte deux grands ensembles. Un ensemble qui est à l'ouest, l'austronésien de l'ouest, qui inclut donc les langues de Taïwan, Formose, des Philippines, de la Malaisie, de l'Indonésie, et ça inclut Bornéo, les célèbres, et ça inclut aussi Java et donc l'Indonésie en général. Et puis, il y a l'ensemble océanien qui, lui, démarre à peu près au 138e degré de longitude, c'est-à-dire que ça passe dans la partie indonésienne de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce degré de longitude. Et à partir de là, on a donc tout l'ensemble océanien. L'ensemble océanien comporte environ 450 langues. Et donc, cet ensemble océanien comprend les langues de Micronésie, les langues grossièrement de Mélanésie, donc des langues comme celles de Salomon, du Vanuatu, ex-Nouvelle-Zébride, de la Nouvelle-Calédonie et tout ce qui est à l'est. Donc, les îles Fidji et puis ensuite tout l'ensemble polynésien qui inclut Samoa, Tonga, et puis, évidemment, les îles polynésiennes, y compris Hawaï et donc l'île de Pâques. Comment s'est faite cette extension? En fait, elle s'est faite par bateau, donc c'était des navigateurs, et ça s'est fait sur une très longue période de temps, puisqu'on date la présence des Austronésiens à Formose à environ 3000 ans avant notre ère. Et on sait que les îles à l'est ont été peuplées donc en Polynésie entre 400 et 900 de notre ère. Donc les plus tardivement peuplées étant Hawaï et l'île de Pâques. Donc ça s'est fait sur une très très longue période, avec parfois des retours en arrière. Par exemple, les Maoris sont des retours en arrière tardifs à partir de l'est vers l'ouest, alors que toute l'expansion s'est plutôt faite d'ouest en est, et plus tardivement puisqu'on se situe aux environs de 1100 de notre ère à peu près. Donc voilà, je crois, ce que je peux dire. Ces deux ensembles, en fait, on leur reconnaît une proto-langue à chacun. Donc, la partie austronésienne de l'Ouest a une proto-langue qui s'appelle le proto-austronésien, mais en fait, qui est la proto-langue de toute la famille. Mais l'ensemble océanien a sa propre langue, sa propre proto-langue reconstruite qui s'appelle le proto-océanien.
Alors, on comprend à vous entendre qu'il s'agit en fait d'une très grande famille de langues, visiblement, qui couvre en tout cas une très grande superficie du globe.
Oui. Puisque ça couvre pratiquement non seulement tout l'océan Pacifique, mais ça va aussi jusque dans l'océan Indien avec le malgache. ce qui n'est pas absolument évident si on ne le sait pas. Donc voilà. Mais par contre, dès qu'on analyse ces langues, on se rend compte effectivement de leur parenté avec les langues austronésiennes de l'Ouest, parce qu'elles ont des systèmes de voix à peu près semblables.
Et toutes ces langues ont dû générer un certain nombre de recherches, on peut supposer, un certain nombre de recherches autour de ces langues, de toutes ces langues austronésiennes. Est-ce que vous pourriez éventuellement nous en parler un petit peu de cette recherche qui s'est mise en place sur les langues austronésiennes? Comment s'est développée la recherche sur les langues austronésiennes et où en est-on aujourd'hui dans ces recherches?
Oui, donc c'est une l'histoire de la recherche s'est faite aussi sur une assez longue période. Alors, tout au début, grâce à des relevés faits par des missionnaires ou des voyageurs, on avait des relevés lexicaux. Et donc, les premiers scientifiques à s'être penchés sur cette question, Humboldt en particulier, a mis en évidence la parenté entre des langues dites malayennes, de la région de la Malaisie, avec des langues de Polynésie. Et donc, ayant mis ces deux groupes en relation, il les avait appelées malayo-polynésiennes. Mais Humboldt n'incluait pas, à cette époque-là, les langues de la Mélanésie, c'est-à-dire les langues, par exemple, des Salomon, du Vanuatu, de la Nouvelle-Calédonie, par exemple. Et en fait, c'est un autre chercheur, un Anglais, Codrington, qui est un missionnaire, en fait, qui a été le premier à dire que les langues mélanésiennes étaient apparentées, faisaient partie de ce groupe. Donc, ceci s'est mis en place petit à petit. Le fait qu'il y avait un ensemble malayo, mélanésien et polynésien, et tout ça appartenait à la même famille. Alors, pour la partie de Formose, il a fallu attendre des recherches beaucoup plus récentes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est simplement dans les années 65-75, à peu près, que Formose a été mis en évidence comme étant un des premiers, non seulement faisant partie de la famille, mais étant même probablement la langue mère de cette grande famille de langues. Et donc... ce sont des gens comme Demwolf qui ont mis ça en évidence. Donc, il a été le premier à reconstruire 2000 mots d'austronésien en s'appuyant sur des langues comme le tagalog, comme le malais, comme les langues de Java. Il a inclus du malgache également. Et il a inclus également des langues comme le fidjien et des langues comme le samoan et le tongien, donc des langues polynésiennes. Et donc, il a reconstruit cet ensemble, mais de façon scientifique, avec 2000 mots reconstruits pour la famille, un peu comme on le fait en proto-indo-européen, où on reconstruit des mots, des étymons, et on montre comment ces étymons sont partagés ensuite dans les langues-filles. Mais il n'incluait pas encore Formose. Et donc, Formose, c'est vraiment beaucoup plus tard, dans les années 65-75, que ça a été mis en évidence, donc par différents chercheurs. Donc, il y a eu, les plus connus sont Dahl, il y a eu Audrey Court, qui a aussi montré la parenté de Formose dans cette famille, et puis des gens comme Blust. Et plus récemment, Laurent Sagard a dit que ce groupe austronésien, avant d'arriver à Formose, à Taïwan, était vraisemblablement sur la côte de Chine, dans la région de Shantung. Et ceci a été prouvé plus récemment par des études génétiques, de génétique des populations et archéologiques. Donc voilà où on en est à l'heure actuelle sur la manière dont ces ensembles linguistiques font partie d'un même groupe et d'une même famille, avec une langue mère qui sont les langues de Taïwan, les langues de Formose. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous dise comment est-ce qu'on établit la parenté génétique de ces langues rapidement? Est-ce que ça peut vous intéresser? Donc, en fait, on reconstruit, donc, comme l'a fait le premier Demwolf, des étymons, comme on l'a fait pour les langues indo-européennes. Et en fait, on procède exactement de la même manière, avec la même méthode, qu'on appelle la méthode comparatiste, pour reconstruire les étymons des familles. C'est-à-dire, on part des langues filles, on prend les mots du vocabulaire commun et on reconstruit des étymons avec des points communs et des changements réguliers, des changements phonétiques réguliers. Alors, si on veut d'ailleurs se donner une idée de ce à quoi ça peut ressembler, on peut, il y a le dictionnaire comparatif étymologique de l'austronésien qu'on trouve en ligne, qui est le dictionnaire de Blust et de Trasso. Et là, on peut se rendre compte à la fois de la quantité de mots d'étymons reconstruits et avec les reflets dans les langues filles, et puis la qualité aussi des reconstructions. Donc, c'est un dictionnaire qui est en ligne. Si je peux essayer de vous donner une idée rapide des reflets entre ces étymons dans les langues filles, donc je vais prendre deux exemples, celui de la maison et celui de la route. Donc la maison est reconstruite en proto-austronésien sous la forme Ruma, et en proto-océanien, sous à peu près la même forme, c'est Rumois. Donc, quand on regarde dans les langues filles, donc en Amis, donc qui dépend du proto-austronésien, la maison c'est Luma, et puis dans d'autres langues de l'Austronésie de l'Est, c'est Uma ou Ruma ou Uma. En Élémois, qui est une langue kanak de Nouvelle-Calédonie, donc ce mot est reflété par le mot moi. Donc on voit qu'il y a des évolutions évidemment, mais on voit aussi qu'il y a des points communs. Ça ne change pas tant que ça. L'autre mot, c'est le mot pour la route, qui est reconstruit sous la forme jalan en proto-austronésien, qu'on trouve en indonésien sous la forme jalan, exactement, mais qu'on retrouve même en élémois, donc en Nouvelle-Calédonie, le mot route est dan, undalan. Donc on voit qu'il y a une continuité lexicale entre toutes ces langues d'un bout à l'autre, pratiquement de la famille. Ça ne veut pas dire que tous les étymons sont reflétés de façon aussi transparente. Il y en a aussi beaucoup où ça demande beaucoup plus de règles intermédiaires pour établir la parenté entre la forme d'origine et puis la forme qu'on voit à l'arrivée dans la langue qu'on observe. Voilà ce que je peux vous dire pour ce qui est de la manière dont on établit la parenté de ces langues d'un point de vue linguistique.
Et quels seraient les éléments qui permettraient de caractériser
toutes ces langues? On imagine une certaine diversité entre toutes les langues austronésiennes, mais qu'est-ce qui permettrait de les caractériser?
Oui, alors effectivement, elles sont extrêmement diverses, mais quand même, on peut leur trouver des points communs. Alors, un premier point commun qui est assez général, c'est que ce ne sont généralement pas des langues tonales, contrairement aux langues d'Asie du Sud-Est. Toutefois, il y a quand même quelques langues qui ont développé des tons. Alors, en particulier en Nouvelle-Calédonie, où il y a des langues tonales dans le centre-nord et puis dans l'extrême sud, qui ont été mises en évidence par Audrey Court et Jean-Claude Rivière, et qui non seulement les ont étudiées, mais ont montré comment ces tons étaient nés, donc leur genèse, comment ils sont arrivés à partir de langues qui ne sont pas tonales. Et puis, il y a aussi dans les langues cham, des langues tonales, mais ça c'est moins étonnant, donc ces langues sont parlées dans l'île de Hainan, en Chine du Sud. Donc ça, c'est effectivement moins étonnant. Il y a une deuxième caractéristique commune, c'est que ces langues sont des langues à tradition orale. Elles n'ont pas d'écriture ancienne, autochtone, à une exception près. L'écriture qui s'appelle Rongo-Rongo, et qui est l'écriture de l'île de Pâques, qui sont des inscriptions, et ce sont des glyphes. Ces glyphes sont en cours de déchiffrement, mais cette écriture n'est pas encore complètement déchiffrée. Donc, c'est une écriture relativement récente, puisqu'on la situe entre 1200 et 1500. Les spécialistes la situent à peu près à cette époque-là. Mais en dehors du Rongo-Rongo, il n'y a pas vraiment de système d'écriture ancien de ces langues. Alors, certaines, en Malaisie par exemple, certaines ont parfois utilisé l'écriture arabe liée à l'arrivée des commerçants arabes. Ils l'ont utilisé pour écrire des textes, en particulier des textes qui étaient plutôt religieux, mais ça n'a pas pris beaucoup. Le sanskrit a aussi parfois été utilisé vers Java, mais sous l'influence de l'hindouisme, mais ça n'a pas pris. Et en réalité, toutes ces langues-là sont écrites avec l'alphabet romain maintenant. C'est ce qui est utilisé sans doute sous l'influence des missionnaires qui sont arrivés petit à petit. Une autre caractéristique, c'est leur ordre. C'est-à-dire que ce sont toutes des langues qui ont l'ordre VO, alors verbe et objet. Peu importe la position de S, C'est-à-dire qu'après, la position de S peut se décliner avant SVO, comme dans nos langues, ou VOS, ou VSO, donc ça, ça n'a pas beaucoup d'importance. En revanche, elles ne sont pas des langues OV. Si on trouve des langues austronésiennes avec l'ordre OV, ce sont généralement des langues qui ont été en contact avec les langues papoues, surtout les langues au nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, là où il y a eu le contact entre les austronésiens et les papous, surtout. Et donc, l'ordre OV est par contre vraiment typique des langues papoues. Voilà, donc ça, c'est l'ordre VO est vraiment spécifique aux langues austronésiennes. Elles ont aussi en commun, toutes, d'avoir une distinction entre pronoms de première personne inclusif et exclusif. Donc, c'est nous, en incluant l'interlocuteur, ou nous, en excluant l'interlocuteur. Et ce qui, dans, par exemple, dans certaines variétés de français, se fait en disant « nous » et « nous autres ». Et si on dit « nous autres », on n'inclut pas l'interlocuteur. Donc, c'est l'équivalent, voilà, sauf qu'eux ont des paradigmes de pronoms pour dire ça. Bon, maintenant, si on observe les deux grands ensembles, c'est-à-dire austronésiens de l'Ouest et océaniens, il y a aussi beaucoup de différences. Alors, c'est là que les différences sont vraiment énormes. Donc, dans la partie austronésienne de l'Ouest, ce sont des langues qui ont des systèmes de voix souvent très complexes, qui vont bien au-delà d'un actif et d'un passif. J'en parlerai sans doute un petit peu plus tard. Et elles ont aussi une morphologie foisonnante. Alors, ce qu'on appelle la morphologie, vous savez, c'est sur le fait qu'on utilise des préfixes, des suffixes, parfois des infixes. Les infixes étant quelque chose qui se met à l'intérieur de la racine. Donc, beaucoup de morphologie très foisonnante. Alors que dans la partie océanienne, il y en a, évidemment, mais il y en a beaucoup moins. Et puis, très souvent, il n'y a pas de voix. Et s'il y a des voix, c'est au mieux une opposition de voix active-passive, alors qu'en Austronésie de l'Ouest, c'est bien plus complexe que ça. Alors, les spécificités maintenant des langues océaniennes, donc qui seraient des innovations de la zone océanienne qu'on ne trouve pas dans la partie austronésienne de l'Ouest. Par exemple, ce sont des systèmes de numération qui sont plus complexes. Dans la partie austronésienne de l'Ouest, on utilise un système décimal, comme dans nos langues, à peu de choses près. Dans les langues océaniennes, c'est plus complexe. Alors, on utilise des bases 5, en utilisant les doigts de la main. Donc, on compte 1, 2, 3, 4, 5, mais après 6, c'est 5 plus 1, 5 plus 2, etc. Et on utilise des bases 10 et on utilise aussi des bases 20. Et donc, 30, ça va être... alors, la base 20 est souvent faite à partir d'un mot qui veut dire « homme ». Et pourquoi ? C'est parce qu'en fait, il y a les 10 doigts de la main et les 10 doigts de pied, et donc ça fait 20, et donc en fait, c'est constitutif d'un homme. Et donc, le mot 20 est très souvent issu d'un mot qui vient du mot « homme », et donc qui sert à compter dans les bases. Oui, ce qu'il y a en commun aussi, c'est que le mot pour 5 est très souvent aussi le mot pour la main. Donc, ça, c'est une chose qui est spécifique. Dans les langues océaniennes, il y a aussi des pronoms duels et des pronoms triels. Alors, on a, comme chez nous, des pronoms singuliers et pluriels, évidemment, mais ils innovent en faisant des pronoms duels qui comptent deux personnes, nous deux, par exemple, ou triels. Nous trois. Donc, il y a une langue de Nouvelle-Calédonie sur laquelle j'ai travaillé plus récemment qui a des pronoms triels. Ce n'est pas très, 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 très courant, mais il y en a en Nouvelle-Calédonie. Sinon, aussi, parmi les innovations, il y a l'apparition de classificateurs numériques. Donc, les classificateurs numériques, ce sont les classificateurs qui servent à compter des entités. Alors, on a ça en chinois et on a ça dans certaines langues asiatiques aussi. Mais en gros, on ne peut pas compter un homme, deux hommes comme ça. On a un classificateur qui sert à classer des êtres, à compter des êtres humains. On ajoute un suffixe numéral et ensuite le mot homme. Donc un homme, c'est classificateur humain, un homme. Et toutes sortes d'entités sont comptées de cette manière-là. Donc à part les hommes, il y a les objets ronds, des objets longs. Et après, des configurations, par exemple, des rangées d'ignames, des fagots, des tas et d'autres choses. Et donc, ces classificateurs servent à compter des classes d'objets. Ça, c'est vraiment une innovation de la zone océanienne. On n'a pas ça, sauf peut-être en Indonésie, dans certaines langues. On n'a pas ça, sinon, dans les langues d'Austronésie de l'Ouest. Et par ailleurs, il y a aussi des classificateurs possessifs. Donc, ça sert à faire, sont aussi des classificateurs, mais ça sert à posséder, au lieu de compter comme tout à l'heure. Mais sinon, ça fonctionne de la même manière. Donc, il y a un classificateur pour posséder des classes d'objets, on ajoute un suffixe possessif et ensuite la chose qui est possédée. Et donc, par exemple, on peut posséder des fruits de cette manière-là. Et alors, ce qui est spécifique à certaines langues, en particulier en Nouvelle-Calédonie, ce sont des classificateurs possessifs pour la nourriture qui comptent des classes d'objets différentes. Donc, on a un classificateur possessif pour tout ce qui est de la nourriture carnée. Donc, si on veut manger un plat de poisson ou de viande, on va avoir un classificateur possessif. Ça, je ne vais pas juste dire mon poisson ou ma viande, mais je vais dire classificateur carné, mon, viande. Pareil pour les féculents, pareil pour les fruits. Et pour, il y aura un autre classificateur peut-être pour la canne à sucre ou parfois simplement des feuilles parce que on mange des feuilles ou des plantes qu'on boue. Et ça peut être aussi des objets qu'on porte au retour de la pêche. Donc, il y a un certain nombre de classificateurs en Nouvelle-Calédonie qui est plus ou moins important. Ça varie entre 5 et parfois plus que 10. Et ça, ce sont aussi des innovations de la zone océanienne hein, qu'on ne trouve pas du tout en Austronésie de l'Ouest. Oui, j'ai oublié de dire que dans les langues micronésiennes, il y a un très, très grand nombre de classificateurs numériques. Ça va jusqu'à 30. Dans les langues de Nouvelle-Calédonie, ça varie entre 10 et... un peu moins de 20, mais en Micronésie, il y a un système très, 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 très étendu de classificateurs numériques. Voilà, parce que je ne parle pas souvent de la Micronésie, et pourtant la Micronésie fait partie de l'Océanie. Bon, voilà ce que je peux vous dire en gros sur ce qui est à la fois leur point commun et les innovations qu'on trouve dans la zone océanienne qui n'existent pas dans la zone austronésienne de l'Ouest.
Le fait qu'il s'agisse de langue orale amène une autre question sur la situation dans laquelle se trouvent ces langues. Est-ce qu'éventuellement, certaines d'entre elles seraient considérées comme des langues en danger aujourd'hui ?
Oui, oui. Et en fait, beaucoup sont des langues en danger. Mais là aussi, la situation est très variable. C'est-à-dire que, par exemple, aux Philippines ou en Indonésie, ce sont des langues qui sont parlées par des millions de personnes et qui n'ont absolument aucun problème pour se maintenir. Mais en revanche, dès qu'on est dans une situation où les langues sont en compétition avec des langues dominantes du fait de la colonisation, donc moi j'ai connu le cas en Nouvelle-Calédonie évidemment, et je connais le cas à Taïwan avec la présence chinoise évidemment. Et donc dans ces deux cas de figure, en fait les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ces langues ont souvent été interdites, donc les gens pouvaient les parler chez eux, mais pas plus que ça. Elles n'étaient pas enseignées à l'école. Et donc, évidemment, les gens essayant de s'intégrer pour survivre se sont mis à ne pas plus forcément parler leur langue à leurs enfants, en essayant de faire en sorte que les enfants apprennent la langue dominante pour pouvoir survivre dans ce monde. Et donc, il y a eu un problème de transmission de la langue. Et donc, évidemment, le résultat, c'est que les langues maternelles ne sont plus parlées. Et évidemment, elles sont très, très fortement en danger. Alors qu'une même situation avec le même nombre de locuteurs sur une île où il n'y a pas de dominance d'une langue par rapport à une autre et de conflits de colonisation sera beaucoup moins en danger, même si c'est un tout petit nombre de locuteurs. Mais si la société est intacte, fonctionne normalement, eh bien la langue n'aura pas de problème de transmission, elle sera transmise sans difficulté. Et on a, dans une certaine mesure, un peu ce genre de choses en Nouvelle-Calédonie. Alors, c'est plus tout à fait aussi vrai maintenant, mais longtemps, les langues qui étaient parlées aux îles Loyauté étaient plus préservées parce qu'elles étaient évidemment au nord, alors que les langues de la Grande Terre, au contact évidemment de la colonisation qui est beaucoup plus forte, ont beaucoup plus souffert. Donc voilà pour répondre à votre question. Donc les langues les plus en danger, en fait, ce sont les langues qui sont dans des situations de contrôle colonial. Donc la même chose évidemment en Polynésie.
Alors, en ce qui vous concerne, c'est précisément en Nouvelle-Calédonie, que vous avez déjà mentionné à plusieurs reprises, c'est précisément donc en Nouvelle-Calédonie que vous avez mené vos premières recherches, plus spécifiquement donc dans le nord de la Grande Terre. Vous vous êtes intéressé à deux des langues kanak parlées dans le nord de la Grande Terre. Et du coup, je voulais vous demander, en fait, comment vous êtes arrivé en Nouvelle-Calédonie? Pourquoi la Nouvelle-Calédonie, finalement? À quel hasard, si je peux me permettre le mot, à quel hasard est dû ce choix? C'est un peu contradictoire, mais entre le hasard et le choix, mais comment est-ce que vous arrivez finalement en Nouvelle-Calédonie pour mener vos recherches dans les années 90?
Oui, alors, j'étais déjà allée en Nouvelle-Calédonie antérieurement, en fait, d'y aller pour faire de la recherche, et c'est une île qui m'avait beaucoup plu. Mais voilà. Mais en fait, le déclencheur réel, ça a été le fait que, suite aux accords de Matignon qui ont été signés en 88, après les événements dramatiques qui ont eu lieu à Ouvéa, des accords ont été signés, et Jean-Marie Tjebaou, qui était un des signataires des accords, voulait qu'il y ait un volet. Un programme de recherche sur les langues et la culture kanak. Et donc ce programme s'est appelé Études des sociétés kanak, ESK, et il a été mis en place au moment des accords de Matignon. Donc il y a eu un programme de recherche qui s'est mis en place. J'ai rencontré les océanistes du Lacito à cette époque-là, donc Jean-Claude Rivière, Françoise Rivière et Claire-Maurice Faury à cette époque, et on en a parlé. Et ils m'ont dit que si je voulais, je pouvais aller travailler en Nouvelle-Calédonie. Mais l'idée étant évidemment d'aller travailler sur des langues qui n'étaient pas encore bien décrites ou pas bien connues. Et donc, ça m'amène à la question suivante, qui est pourquoi les langues du Nord? Eh bien, précisément parce que les langues du Nord, de l'extrême Nord, hein, parce que moi, c'est vraiment l'extrême Nord, c'est vraiment la pointe Nord de la Nouvelle-Calédonie, ces langues-là étaient peu connues et peu décrites, à quelques exceptions près. Alors que globalement, les langues du centre et du sud avaient déjà été décrites essentiellement par les océanistes du Lacito et puis aussi par Grace, qui avait travaillé sur une des langues, le Rhin-Ratieu. Jean-Claude et Autricourt avaient travaillé sur les langues tonales, donc du centre et du sud. Donc il restait en fait les langues du nord sur lesquelles il y avait eu des travaux. Par exemple, le père Lambert avait fait une description de la langue qui était parlée au Bélep. Autricourt était allé dans l'extrême nord vers Poum et il avait fait un petit lexique dans les années 60, mais il n'existait pas beaucoup plus de choses que ça. Et donc moi j'étais censée y aller pour décrire la langue. Les locuteurs attendaient aussi un dictionnaire plus complet, mais je devais aussi faire une description grammaticale de cette langue. Et la raison pour laquelle j'y suis allée, c'est qu'il y avait un vide, et donc il y avait besoin de connaître un petit peu plus de choses sur les langues du Nord. À cette même époque, Françoise Ozanne Rivière a également allé travailler sur le Nyalayu, qui est en fait une langue limitrophe et voisine du Nelemwa. Et puis, parmi les autres chercheurs qui travaillaient sur ces langues-là, il y avait aussi Holyman qui avait travaillé sur une autre langue qui s'appelle le Tiach. Mais en général, pour répondre à votre question, à cette époque-là, les langues du Nord avaient un déficit de documentation. Et donc, voilà pourquoi je suis allée là-bas.
Mais vous arrivez donc en Nouvelle-Calédonie dans un contexte politiquement compliqué, si on peut le qualifier ainsi. On est au début des années 90, vous avez parlé donc des accords de Matignon, vous avez parlé de Jean-Marie Tjebaou. Dans quelle mesure ce contexte politique un peu particulier qui a marqué la Nouvelle-Calédonie et notamment la deuxième moitié des années 80, celle qu'on a appelée comme les événements, dans quelle mesure ce contexte politique un peu spécifique a pu marquer vos recherches, c'est-à-dire comment vous êtes-vous positionné, vous, en tant que chercheuse, en tant que linguiste, dans ce contexte particulier, quand vous êtes arrivée sur le terrain avec les populations dont vous avez étudié la langue ?
Bien, du fait que j'arrivais au moment des accords de Matignon et spécifiquement dans ce programme de recherche sur les langues et les cultures, j'ai été évidemment très bien accueillie. Et donc moi, je suis arrivée en 91 la première fois. Donc, c'était quelques années après les accords de Matignon. Mais de ce fait, j'étais extrêmement bien accueillie. Les gens ont été extrêmement... m'ont beaucoup aidée, ont collaboré avec moi. Donc, c'était vraiment des conditions totalement idéales pour travailler sur ces langues. Sachant que les gens étaient demandeurs, puisqu'ils étaient demandeurs pour avoir des dictionnaires et des grammaires, dans l'idée qu'il fallait transmettre cette langue avant qu'elle disparaisse, et donc l'enregistrer telle qu'elle était, donc en particulier parler parce que les locuteurs un peu âgés commençaient à dire que les jeunes ne parlaient pas bien la langue, etc. Donc, en fait, on m'encourageait à travailler avec les personnes plus âgées, de façon à ce que j'apprenne, entre guillemets, la langue correcte, sachant que toutes les langues évoluent et que de toute façon elles vont changer de caractéristiques. Mais j'étais censée travailler avec eux de façon à écrire une grammaire d'une langue qu'eux considéraient comme la bonne langue, de façon à ce que ce soit celle qui soit en fait décrite et éventuellement transmise aux enfants si on transmet la langue de cette manière-là, ce qui reste à voir. Il n'est pas du tout évident qu'on transmette une langue par le biais d'une grammaire et d'un dictionnaire. Je pense qu'essentiellement, on transmet une langue dans la famille, lorsque les parents et les grands-parents parlent la langue au quotidien dans la famille et dans la maison. Mais bon, peu importe, c'est quand même utile d'avoir des traces par le biais de grammaire et de dictionnaire des langues qu'on décrit. Au moins, on décrit un certain état de langue, sachant que cet état de langue va forcément évoluer. Mais c'est aussi intéressant de voir en 20 ou 30 ou 40 ans comment ces langues évoluent. Je pense que si maintenant quelqu'un allait travailler sur le Nelemois, très, très longtemps après moi, il verrait certainement déjà de grands changements, c'est-à-dire à la fois des choses qui ont disparu et des choses qui ont été innovées. Et donc, ce serait intéressant de voir dans quel sens les choses évoluent. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir des états de langue qui sont enregistrés à certains moments de l'histoire. Les langues de Nouvelle-Calédonie sont également extrêmement diverses. Je vous ai parlé de la diversité des langues à travers tout le Pacifique, mais même en Nouvelle-Calédonie, où il y a quand même 28 langues, toutes les langues du Nord et de l'extrême Nord ont un ordre VOS, vous savez l'ordre dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais les langues du Sud ont un ordre SVO, exactement comme en français ou en anglais. Et les langues des îles Loyauté ont des ordres mixtes, c'est-à-dire à la fois VOS et SVO, et ça varie selon le temps et l'aspect. Donc c'est pour vous montrer qu'il y avait besoin aussi de décrire ces langues dans leur extrême diversité, en ne croyant pas que, comme ce sont des langues kanak, elles se ressemblent toutes plus ou moins, ce qui est totalement faux, elles ne se ressemblent pas, elles sont extrêmement diverses, il n'y a pas d'intercompréhension entre les locuteurs des diverses langues. Ils peuvent les apprendre, bien évidemment, et souvent, ils parlent deux ou trois langues, mais ce ne sont pas des langues qui sont mutuellement compréhensibles comme ça. Voilà, ça suppose de les apprendre comme on apprend l'espagnol, l'italien ou le roumain pour ce qui est des langues qui nous ressemblent ou qui font partie du même sous-groupe que le nôtre. Donc voilà, c'était juste pour donner un peu plus de substance aussi à la raison pour laquelle il y avait besoin d'aller travailler sur les langues du Nord. C'est parce qu'aussi, elles étaient typologiquement très différentes. Et par ailleurs, juste encore une dernière petite chose, les langues du Sud sont totalement accusatives. Ça veut dire qu'elles fonctionnent comme nous, c'est-à-dire avec un sujet au nominatif et un objet qui est à l'accusatif. Bon, c'est ce qu'on appelle les langues accusatives. Mais les langues de l'extrême Nord ont des systèmes doubles et un système qui est dit ergatif, au sens où le sujet d'un verbe intransitif est marqué différemment d'un sujet d'un verbe transitif. C'est-à-dire que si je dis « Jean mange », « Jean » va être marqué à un cas différent de « Jean mange la pomme ». Voilà, donc c'est très connu pour les linguistes dans les langues du monde, mais Il faut voir que cette diversité existe même en Nouvelle-Calédonie, à l'intérieur d'une terre qui fait, comme vous le savez, 450 ou 500 km de long dans ses deux extrémités et qui est très peu large. Et voilà. Et donc, ça montre un peu la diversité incroyable qu'il y a.
La Nouvelle-Calédonie est donc le terrain que vous avez pratiqué, dans lequel vous avez, mené la plupart de vos travaux, mais depuis une dizaine d'années environ, vous avez commencé à explorer un autre terrain à Taïwan. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu ? Comment s'est fait cette réorientation, vers Taïwan plus récente ?
Alors, ce qui m'a poussé à aller travailler à Taïwan, c'est d'abord la curiosité pour des langues qui font partie de la même famille, mais qui sont le berceau de la famille et, comme je vous l'ai dit, qui ont des caractéristiques totalement différentes, qui ont beaucoup de morphologie, alors que les langues kanak ont beaucoup de complexité, mais pas beaucoup de morphologie, c'est-à-dire pas beaucoup d'affixes, préfixes, vous savez, suffixes, etc. Leur complexité se situe ailleurs. Alors que dans les langues de Taïwan, en particulier donc la mise sur laquelle je me suis mise à travailler, tout d'un coup, il y avait un foisonnement de morphèmes, et puis un foisonnement de voix, alors que dans les langues kanak sur lesquelles j'ai travaillé, il n'y a pas d'opposition de voix, il n'y a même pas d'opposition de voix active-passive. La seule opposition qui est liée, c'est une opposition entre voix active et puis voix stative. Donc on oppose des états et des actions, en gros. Mais il n'y a pas d'opposition active-passive comme dans nos langues. Et à Formos, et en Amis en particulier, parce que l'Amis a un type de voix de type de ce qu'on appelle philippin, donc on trouve aussi beaucoup aux Philippines et dans une moindre mesure en Indonésie, mais elles ont un système de voix extrêmement complexe où, outre la voix, alors je dis agentive et patientive pour éviter de dire actif-passif parce que ce n'est pas actif-passif. Enfin, donc, il y a une voix agentive, une voix patientive, et puis il y a tout un autre foisonnement de voix qui permettent de, donc, qui s'appelle par exemple la voix locative ou la voix bénéfactive ou la voix donc locative bénéfactive et puis évidemment la dernière ne me revient pas, mais c'est pas grave. En tout cas, ce qui est important, c'est que ça permet de choisir d'autres arguments que ce qui serait l'agent ou le patient comme sujet du verbe, et de prendre par exemple le lieu où s'est située l'action comme sujet du verbe, ou le bénéficiaire d'action, par exemple donner quelque chose à quelqu'un comme sujet du verbe. Et donc il y a toute la morphologie qui se met en place et qui indique qu'on a changé de voix et que donc le sujet syntaxique va être un lieu ou un bénéficiaire ou un instrument. Voilà, c'était ça la dernière voix ou la voix instrumentale. Donc ça, c'est très très spécifique à ces langues-là et je trouvais ça complètement passionnant et ça m'intéressait d'essayer de comprendre Qu'est-ce qui présidait au choix de ces voix ? C'est-à-dire, quels sont les critères qui font que tout d'un coup, on va choisir plutôt telle voix que telle autre voix, sachant qu'il y en a potentiellement 5 ou 6. Donc, peut-être je vous en parlerai plus tard. Et à ce point-là, je voudrais aussi remercier ma collègue Elisabeth Zetoun, qui est celle qui m'a permis d'aller travailler à Taïwan. Donc, c'est une grande spécialiste des langues de Formose. Elle est chercheure à l'Académie Sénica. Et c'est elle qui, je lui en parlais un jour en lui disant oh, « ça m'intéresserait, mais bon, je ne crois pas que ce soit possible ». Et elle m'a dit « mais si, c'est possible, viens et je t'aiderai à t'implanter là-bas ». Et donc c'est elle qui m'a amenée sur le terrain, qui m'a présentée aux gens, qui a fait deux terrains avec moi en fait, au début pour me donner le temps de m'habituer, que les gens s'habituent à me voir et qu'on commence à travailler ensemble. Et donc j'ai une gratitude pour elle énorme pour ce qu'elle a fait pour m'aider à m'implanter à Taïwan, ce qui n'allait pas de soi non plus. Si j'essaye de répondre à votre question un peu sous un autre angle, il y a aussi pour des raisons historiques. Alors, je vais essayer d'être brève. Quand on travaille sur les langues de Taïwan, on travaille très près de ce qui est reconstruit comme la proto-langue du proto-austronésien, puisqu'en fait, ce sont les premières branches, ce sont les premières langues filles. Et donc, quand il y a des reflets des étymons, parce qu'il n'y a pas des reflets de tous les étymons, même en amis, mais quand il y a des reflets des étymons, on les voit, mais c'est presque transparent, il y a très, très peu de changements. Alors que quand j'étais en Nouvelle-Calédonie et qu'on essayait de comparer les étymons reconstruits en proto-océanien et on se demandait bon, est-ce que ce mot-là est un reflet ou pas de ce mot-là, ça ne saute pas aux yeux. Et on peut l'établir, mais ça suppose de passer par beaucoup de règles de changement phonétique pour arriver à montrer que quelque chose est apparenté, alors que ça ne se voit pas, contrairement à ce qui se passe en Amis. Alors, je vais juste vous donner deux petits exemples. Il y en a un, ça va être le mot « pou », et l'autre, ça va être le mot pour « igname ». Alors, le mot « pou », est reconstruit. Alors pourquoi le pou? Ben pour vous, je sais pas. C'est comme ça. C'est un des mots qui est tellement transparent dans toute la famille que on l'utilise sans arrêt. Donc le mot pou est reconstruit en proto-austronésien sous la forme kutsu. En proto-malayo-polynésien, donc la branche intermédiaire, sous la forme kutu, et en proto-océanien sous la forme kutu. C'est-à-dire que dans les proto-langues, en fait, il n'a pas bougé déjà ou très peu. Quand on regarde les langues filles, donc la mis, le reflet de kutsu, c'est kutu. En malais, c'est kutu. Et là, on arrive en Nouvelle-Calédonie. Et alors, en Nouvelle-Calédonie, le reflet, alors que c'est reconstruit sous la forme kutu en proto-océanien, je vous donne juste quelques mots dans différentes langues du Nord, on le trouve reflété sous la forme tirit, ti-i, tik. Et dans une langue qui est le timuri, il est juste reflété par une voyelle qui est i. Donc, on voit l'érosion incroyable qui s'est produite entre un dissyllabe et puis juste une voyelle à la fin. Mais on peut montrer que la voyelle est apparentée à ce mot qui veut dire pou. Et un autre exemple, c'est pour l'igname, qui est reconstruit en proto-malayo-polynésien sous la forme kubi, en proto-océanien sous la forme kupi. Alors, quand je prononce que, mais en fait, c'est une uvulaire, donc ça serait plutôt ubi et ubi. Et dans les langues de Nouvelle-Calédonie, donc ce mot est reconstruit sous la forme, est attesté dans les langues filles sous la forme kuit, kui, kuk, ku, et dans la même langue que tout à l'heure, ou, juste une voyelle. Et on peut aussi montrer que le ou est bien un reflet de ce mot qui est reconstruit donc sous la forme upi en proto-océanien. Donc c'est pour vous montrer. Contrairement, tout à l'heure, j'essayais de vous montrer une parenté et le peu de changements qu'il pouvait y avoir, mais en Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de changements phonétiques qui font que les mots sont apparentés, mais difficilement reconnaissables à l'œil nu, et qu'il faut en passer par différents systèmes de règles, de changements phonétiques pour montrer que oui, c'est bien apparenté. Et d'un point de vue historique, c'est pour ça aussi que ça m'intéressait de travailler à Taïwan, parce que c'était tellement, la parenté était tellement transparente que c'en était reposant, d'une certaine manière. Voilà, c'était l'autre aspect qui m'a intéressé.
En lien avec cette question de la parenté, est-ce qu'on pourrait en déduire que l'investissement de ce nouveau terrain vous a d'une certaine façon mené vers un travail de linguistique comparative? Et si c'est bien le cas, qu'est-ce que ce travail comparatif vous a permis d'apprendre sur les langues austronésiennes?
Oui, donc ça m'a donné une perspective plus large, évidemment, d'aller travailler comme ça à deux extrémités avec des langues qui ont des caractéristiques aussi différentes. Alors peut-être pour illustrer ce que j'ai pu apprendre, je vais peut-être vous parler de deux choses, l'opposition entre les verbes et les noms dans ces langues, et puis les voix, parce que les voix, c'est tellement caractéristique, je vais essayer d'être bref. Donc, sur l'opposition entre les verbes et les noms, en gros, dans les langues kanak, ces langues ont dans leur lexique, donc comme entrée de dictionnaire, des mots qui sont des noms et puis des mots qui sont des verbes, un peu comme dans nos langues, un peu comme en français, on a « livre » et « lire ». Bon, on peut dériver à partir de ces verbes, on peut dériver d'autres noms, comme lecture, qui dérive un nom d'action, et puis lecteur, qui dérive un nom d'agent. Mais il y a bien une opposition entre des noms, comme livre et lire. Et donc, je dirais que les langues de Kanak, de Nouvelle-Calédonie, fonctionnent à peu près de cette manière-là. En revanche, en Amis, et dans beaucoup de langues de Formose, mais en tout cas, je me contente de parler de l'Amis, c'est totalement différent parce que les lexèmes sont en fait plutôt des racines. Et elles ne fonctionnent comme nom et comme verbe qu'une fois qu'elles sont dérivées et une fois qu'elles sont mises dans un contexte syntaxique. C'est seulement à ce moment-là qu'on peut reconnaître que la racine va fonctionner comme un nom, par exemple avec des articles devant, ou comme des verbes, en étant dérivés par des morphèmes de voix, par exemple. Mais sinon, l'entrée du dictionnaire elle-même, on ne peut pas dire ceci est un nom ou ceci est un verbe, parce que potentiellement, c'est sous-spécifié, donc ça peut être les deux. Et donc, en fait, il faudrait dire nom, verbe, mais ça va être, leur catégorie va être spécifiée dans un contexte syntaxique. Une analogie serait certains mots de l'anglais, par exemple comme call. Call qui peut être un nom, a call, et puis ça peut être un verbe, he called, par exemple. Et simplement, on met des morphèmes différents autour d'une racine qui serait call. Et call, si on le mettait comme entrée du dictionnaire, mais ça pour potentiellement, ça peut être un nom et un verbe. Et ça va dépendre de la manière dont il va être marqué dans une phrase. Et donc, je dirais que la langue amis fonctionne plutôt sur ce mode-là, si ce n'est que ce n'est pas 20 ou 30% de son vocabulaire qui fonctionne comme ça, mais pratiquement l'essentiel de son vocabulaire. Donc ça, c'est la première chose que j'ai vue et qui m'a beaucoup intéressée. Et l'autre chose, c'est le système des voix dont je vous ai déjà parlé. Donc par opposition aux langues kanak, où il n'y a pas d'opposition les langues sur lesquelles j'ai travaillé n'avaient pas d'opposition de voix active-stative. Donc je vous ai parlé déjà de ce grand nombre de voix en émis. Et donc, ce qui était intéressant, c'était de voir qu'elles ont une autre caractéristique, c'est que ce sont des voix qu'on appelle symétriques. Alors, contrairement à nos langues, où la voix active et la voix passive ne sont pas sur le même plan, la voix active est la voix majoritaire, la voix passive est une voix dérivée. Et donc, elles sont donc asymétriques. On ne va utiliser la voix passive que lorsqu'on veut mettre l'accent sur le fait qu'un patient est affecté et on ne mentionne pas l'agent parce que ce n'est pas important. Donc, on dit, par exemple, le verre a été cassé, mais soit on ne sait pas par qui, soit on ne veut pas le dire. Mais par défaut, on parle plutôt à la voix active, disons. Alors que dans cette langue-là, les deux voix ne sont pas dérivées l'une de l'autre, elles sont symétriques, c'est-à-dire qu'elles sont aussi utilisées l'une que l'autre, et l'une n'est pas dérivée de l'autre. Et en fait, elles vont être utilisées pour des raisons différentes qui ont un lien avec l'aspect. Alors l'aspect, c'est-à-dire est-ce que l'action est accomplie ou pas? Est-ce que le patient est complètement affecté ou pas? Ou est-ce que le patient est défini ou pas? En fait, c'est ce genre de choses qui va présider au choix de l'une ou de l'autre. Donc, vous voyez que c'est différent d'un système de voix active-passive. C'est pour ça qu'on dit plutôt voix agentive et voix patientive. En gros, si on dit quelque chose comme « il est en train de manger la pomme », on va plutôt prendre la voix agentive parce que la pomme n'est pas complètement affectée puisqu'il est en train de la manger. Par contre, si on dit « il a mangé la pomme et c'est fait », à ce moment-là, on utilisera plutôt la voix patientive. Mais il a mangé la pomme, vous voyez, je le traduis par une voix active en français, mais en réalité, il faudra prendre la pomme comme le sujet de la construction et obligatoirement utiliser cette voix dite patientive. Donc vous voyez, les raisons de ce choix sont complètement différentes des raisons pour lesquelles nous, on va choisir une voix passive par opposition à une voix active. Voilà, et donc je ne vais pas trop m'apesantir, mais voilà en gros ce qui m'a intéressé dans le système des voix de la MIS, voilà, par opposition aux langues qui n'ont pas de voix, comme en Nouvelle-Calédonie.
Alors il s'est agi de recherche de terrain, aussi bien en Nouvelle-Calédonie qu'à Formose. De fait, vous êtes une linguiste de terrain et vous menez vos recherches au Lacito, qui se caractérise, entre autres choses, pour être un laboratoire qui regroupe des linguistes de terrain. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur qu'est-ce qu'être linguiste de terrain d'un point de vue méthodologique ? Qu'est-ce que ça implique très concrètement dans la façon de mener son travail en tant que linguiste ?
Je vais d'abord vous répondre sur le Lacito, qui est un laboratoire de chercheurs qui travaillent sur des langues à tradition orale et donc qui vont faire du terrain pour documenter les langues sur lesquelles ils travaillent. Donc ça, c'est un des mots-clés qui permet de définir le Lacito. L'autre mot-clé étant le fait que c'est un laboratoire qui s'occupe d'anthropologie linguistique également, c'est-à-dire qui regarde aussi et qui s'intéresse à la linguistique d'un point de vue anthropologique, ce qui les amène à s'intéresser au système de parenté, à la littérature orale, par exemple, à la description d'autres systèmes comme des systèmes spatiaux. Et évidemment, on est tous sensibilisés à ce genre de sujet. Et quand on fait des enquêtes linguistiques et des enquêtes sur le lexique, évidemment, on s'occupe aussi des termes de parenté, des représentations de l'espace. Ça fait partie de notre travail. Et c'est vraiment quelque chose qui est lié au fait que le Lacito a cette panoplie d'intérêts qu'il met en œuvre. Alors maintenant, pour la méthodologie de la linguistique de terrain, je vais vous dire comment moi je procède, ce sera plus simple. Donc, je commence par essayer de construire un corpus spontané, le plus complet et le plus divers possible. Donc, je vais enregistrer des gens qui racontent des histoires, des mythes, des souvenirs personnels, des anecdotes qui leur sont arrivées dans la journée, des recettes de cuisine. Donc j'essaye de varier les genres le plus possible, de façon à avoir des états de langue divers, sachant que lorsqu'on décrit une recette de cuisine, on ne va pas utiliser tout à fait les mêmes structures de langue que si on narre un mythe qui a certainement une structure et une construction beaucoup plus forte. Donc ça, c'est une première chose. Je peux utiliser également des vidéos et des images. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait absolument utiliser des images et des vidéos qui soient ancrées dans le quotidien des gens et qui fassent partie de leur univers. Parce que je me suis rendu compte que si on utilisait des images qui sont exportées de notre monde dans le leur, ça ne donne pas des résultats fantastiques. Et souvent, ça trouble beaucoup les gens parce qu'on n'a pas, le même univers mental. Et donc, il vaut mieux filmer des scènes locale, de la vie locale, et faire parler les gens sur ces images que d'importer des choses. Pareil pour les bandes dessinées. J'avais essayé à un moment de travailler sur des bandes dessinées, mais ce sont des situations qui ne leur sont pas familières. Et donc, souvent, c'est troublant. Donc, il vaut mieux utiliser... Après, j'ai trouvé... Là, je parle surtout pour la MIS, hein, des livres d'histoire, de contes, avec des illustrations, mais qui étaient des contes à Miss. Et donc, je refaisais raconter l'histoire à partir de ces images. Et là, évidemment, c'était un univers qui leur est familier. Et du coup, les choses étaient très fluides et beaucoup plus faciles si je procédais de cette manière-là. Donc, voilà comment j'essaye de construire un corpus. Alors, ce qu'on peut faire également, c'est utiliser ce qu'on appelle les élicitations. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on se met à poser des questions beaucoup plus précises. Alors, j'évite ce qu'on appelle les élicitations pour la grammaire, parce que ça peut fausser les choses. Alors, ce que je ne fais jamais, c'est de demander comment est-ce qu'on dit « il pleut dehors aujourd'hui ». Parce que alors, si on commence à procéder par des traductions, ça induit des calques. Et donc, les gens peuvent inconsciemment se mettre à parler en calquant la phrase que vous venez de prononcer et non pas la manière dont ils l'auraient dit spontanément. Donc, j'utilise les élicitations pour le lexique, ça c'est très bien. Par exemple, si on veut éliciter le paradigme des pronoms personnels, comme « je », « tu », « il », par exemple, bon, évidemment, on peut le trouver dans les textes, mais ça peut être parfois plus simple de les compléter de cette manière-là. Ou les termes de parenté, ou les termes de partie du corps. C'est plus facile à éliciter. Donc pour le lexique, c'est très bien. Pour la grammaire, je l'utilise parfois pour vérifier des énoncés. Donc je pars d'une phrase qui a été prononcée par quelqu'un, mais je veux voir quelles sont les limites de l'acceptabilité de cette phrase. C'est-à-dire, si je commence à changer l'ordre des termes, puisque l'ordre est important, jusqu'à quel point ça va être acceptable et à partir de quel moment ça va être agrammatical et ils vont le refuser. Donc ça permet de tester un peu les limites de ce qui est grammatical ou pas. On peut aussi ajouter des morphèmes ou retrancher des morphèmes pour voir ce qui est absolument indispensable dans la construction et ce qui ajoute quelque chose mais qui n'est pas indispensable. Donc, les élucidations, je les utiliserai plutôt de cette manière-là. Et voilà. Mais sinon, le corpus spontané, donc on enregistre, on transcrit, c'est-à-dire que donc on l'écrit, et idéalement, en tout cas au début, quand on ne connaît pas la langue, on fait le mot à mot. C'est-à-dire chaque morphème et chaque mot est glosé avec sa catégorie, son sens, etc. Bon, après, comme c'est un processus qui prend énormément de temps, au bout d'un moment, on ne le fait plus, mais idéalement, il faudrait le faire. Alors maintenant, il y a des systèmes automatiques. On peut faire avec des machines, des systèmes plus automatisés. Mais ce corpus est la base pour l'analyse phonologique de la langue, l'analyse pour les morphèmes, les identifier et ensuite expliquer leurs fonctions, et puis la grammaire. Donc en fait, ça sert absolument à tout, et ça peut être complété si on voit qu'il manque des choses par des élucidations ou des choses qui sont beaucoup plus demandées en fait ou sollicitées. Voilà. De façon générale, donc évidemment, décrire une langue prend beaucoup de temps et va demander des séjours successifs, bien évidemment. Voilà ce que je peux vous dire en gros sur ce qu'on peut faire méthodologiquement quand on est sur le terrain. Et puis évidemment, on partage la vie des gens le plus possible pour se faire accepter et faire un peu partie du panorama.
En plus de vos activités de recherche et donc de ces activités de terrain plus spécifiquement, comme je le mentionnais en présentation de cet entretien, vous êtes directrice d'études à l'EPHE, ce qui veut dire que vous donnez des cours. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu, nous dire quels sont les enseignements que vous donnez à l'EPHE?
Alors, il y a deux volets à cet enseignement et je le poursuis de cette manière-là. Il y a un volet qui est beaucoup plus typologique et qui s'adresse un peu à tout le monde. C'est-à-dire pas aux spécialistes ou aux curieux des langues austronésiennes, mais quelque chose qui donne des outils plus généraux. Et puis, le deuxième volet, c'est je présente les langues austronésiennes, un peu comme j'ai pu essayer de le faire ici, pour des spécialistes ou des non-spécialistes. Alors, parce que mes étudiants ne sont pas toujours des spécialistes ni des gens qui ont envie de se spécialiser sur les langues austronésiennes. Certaines viennent pour savoir ce que c'est que cette famille et comment elle se présente et qu'est-ce qu'elle a comme caractéristiques. Et donc, je vois cet enseignement à la fois comme une prolongation de mes recherches, mais aussi comme une façon de former de futurs jeunes chercheurs et puis des gens qui éventuellement prennent la relève, qui soient intéressés par la linguistique de terrain, parce que je présente aussi la façon dont je travaille dans mes cours, et donc qui puissent susciter des vocations, au moins des envies de faire ce genre de recherche. Donc, pour essayer de répondre à votre question, si j'ai des étudiants qui ne se destinent pas à devenir spécialistes ou qui ne sont pas spécialistes, quand je présente par exemple le système des voix en AMIS, ce système très complexe où il y a 5 voix, je décris les faits, mais j'essaye de l'articuler à des phénomènes plus généraux. C'est-à-dire, lorsqu'on choisit une voix, pourquoi choisit-on cette voie-là ? Donc, c'est parce qu'on veut mettre en science plutôt l'agent ou plutôt le patient ou plutôt l'instrument, comme ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure, ou plutôt un lieu, si c'est un lieu qui est le centre de l'action du verbe. Mais si on essaye de le relier à quelque chose de plus large, ça montre une hiérarchie des actants, c'est-à-dire en fait des actants du verbe, les actants du verbe étant toutes les entités qui sont indispensables au verbe, donc un sujet, un objet, un lieu, un instrument, un bénéficiaire pour des verbes comme « il donne du pain à Jean » par exemple. Bon. Et donc les langues sont très variables dans ce qu'elles permettent de faire justement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles permettent de choisir comme actant pour les promouvoir à la fonction sujet. Donc, dans les langues actives-passives, on peut promouvoir le patient, et puis ça s'arrête là. Et dans les langues de type philippin, comme la Miss, on peut promouvoir, donc, je vous le dis, le lieu, un instrument, un bénéficiaire, et en faire le sujet du verbe, qui est à ce moment-là une voix qui est marquée patientive, qui est marquée instrumentale ou bénéficiaire ou locative. Mais Ça, c'est très, très spécifique à ce groupe de langues de type philippin ou du type de lamis. Mais dans d'autres familles de langues, il y a des hiérarchies des accents qui fonctionnent sur d'autres registres ou sur d'autres critères. Donc, dans certaines langues tibéto-birmanes, par exemple, ou dans certaines langues amérindiennes, la hiérarchie se fait sur le côté animé ou inanimé du sujet, de celui qui va faire l'action. Donc, pour vous donner une idée, ce système de voix va s'appeler voix directe ou inverse. Et voilà comment ça fonctionne. Si on veut dire quelque chose comme « l'homme a tué le jaguar », l'homme est un humain, le jaguar est un non-humain. Donc dans la hiérarchie, l'humain est plus haut que le non-humain. Mais cette hiérarchie est bien plus complète que ça. Après, ça va être un nom inanimé indéfini, défini, etc. Enfin, il y a toute une hiérarchie comme ça. Je vous prends juste un segment de la hiérarchie pour vous montrer comment ça fonctionne et quel impact ça va avoir sur le choix d'une voix directe ou inverse dans ce type de langue. Donc, si c'est l'homme qui tue le jaguar, c'est la voix directe, c'est-à-dire c'est la voix standard, un peu comme la voix active chez nous. Si c'est le jaguar qui tue l'homme, alors il se trouve que le jaguar, qui est donc l'agent, est plus bas dans la hiérarchie, puisqu'il est non humain, que le patient, qui lui est humain. Alors dans ce cas de figure, va apparaître ce qu'on appelle la voix inverse, qui va se manifester par un morphème qui va apparaître sur le verbe, et qui donc obéit cette fois-ci à la hiérarchie des actants sur des questions de traits humains ou non humains du sujet. Voilà. Donc, voilà encore un autre cas de figure d'un type de voix qui va fonctionner sur des critères complètement différents. Donc, quand on fait prendre conscience aux étudiants de cette variété de choses, mais tout en les reliant à un fil conducteur qui est le même, qui a une hiérarchie entre les actants, et que selon des traits comme est-ce que c'est des pronoms de première, deuxième ou troisième personne, des noms propres, des noms qui réfèrent à des termes de parenté, des noms référant juste à des humains, à des non-humains, à des inanimés, ça réagit à différents endroits de ce genre de hiérarchie. Et ça a un impact sur beaucoup de segments de la syntaxe, et donc là en particulier pour le système des voix. Donc voilà en quoi la typologie peut être utile et comment j'essaye d'articuler des choses qui sont spécifiques à l'ère austronésienne avec des choses qui existent dans d'autres familles de langues, mais qui réagissent à des traits plus généraux. Et en typologie, on appelle ça des hiérarchies implicatives ou des traits hiérarchiques. Voilà. Et donc, ça permet de s'extraire un petit peu des langues pour retrouver des phénomènes plus généraux qui sont au-dessus des langues elles-mêmes.
Et dans la continuité et en complément de ces activités à la fois de recherche et d'enseignement, il y a les publications. Et des publications que vous en avez, à ce stade de votre carrière, un certain nombre. S'il y en avait toutefois deux ou trois que vous souhaiteriez éventuellement retenir ou mettre en avant, lesquels souhaiteriez-vous nous présenter parmi toute votre liste de publications?
Je dirais alors vraiment en tout premier mes grammaires et mes dictionnaires, parce que je pense que c'est extrêmement utile et c'est une façon de remercier aussi les gens qui ont travaillé avec vous, donc qu'ils aient quelque chose qui leur revient et qui leur soit utile. Et qui leur soit utile pour leur enseignement, qui leur soit utile éventuellement pour transmettre la langue, mais bon, c'est surtout en fait les enseignants et puis parfois les pasteurs aussi, parce que les pasteurs traduisent beaucoup des textes liturgiques d'une langue dans une autre, et donc les pasteurs étaient souvent très très intéressés. En fait, les deux groupes de personnes qui très très souvent travaillaient le plus avec moi, le plus assidûment, étaient des enseignants et des pasteurs pour des raisons qu'on comprend bien, évidemment. Et puis en plus, parce que c'était des gens qui avaient appris d'autres langues, qui comprennent les structures des langues, et donc ils étaient très, très intéressés pour réfléchir avec moi sur les structures de leur propre langue. Donc, pour cette raison-là, les grammaires et les dictionnaires sont vraiment très, très importants. Et puis parce que ça laisse une trace d'un état de langue à un moment donné. Ensuite, peut-être rapidement, un article, un autre article sur les voies symétriques, les voies dont je vous ai parlé, mais je ne vais pas m'appesantir, donc, où j'ai essayé de montrer quels étaient les éléments qui faisaient qu'on choisissait telle ou telle voie dans les 5 voies possibles de la MIS. Et puis le troisième, c'est un article sur les constructions réciproques, à la fois dans les langues kanak, mais j'ai essayé de remonter le fil jusqu'aux langues de Formose, parce qu'en fait, c'est un même préfixe qui évolue, évidemment, mais qu'on retrouve du proto-austronésien jusqu'au proto-océanien et qu'on retrouve dans les langues kanak. Et quand je suis allée travailler, à partir du moment où je suis allée travailler sur la MIS, je suis allée faire l'enquête sur la manière dont on exprimait les réciproques en Amis. Et en fait, je me suis rendu compte... Alors, ces préfixes réciproques expriment non seulement du réciproque, mais beaucoup d'autres sens. Et je me suis rendu compte que l'ensemble des sens que je pouvais trouver autre que le réciproque dans les langues kanak, je trouvais exactement la même chose en Amis. Donc, c'était assez intéressant de voir. Donc, il y avait une continuité, y compris dans le sémantisme et la diversification sémantique de ces préfixes de réciproque. Et puis, rapidement, juste pour... finir là-dessus. Ce qui était intéressant, c'était aussi de se rendre compte, et ça avait été déjà dit par d'autres chercheurs comme Lichtenberg et Paulet, c'est que la source de ces réciproques dans les langues austronésiennes, c'est un morphème de collectif. C'est-à-dire que, en fait, la source de ce morphème, c'est faire quelque chose ensemble. Et puis, il y a un glissement vers le réciproque, sans doute par le fait qu'on fait quelque chose ensemble, et puis ça peut être ultérieurement rendu. Par exemple, si on s'aide mutuellement dans les champs, on peut s'aider mutuellement dans un champ, et puis plus tard, on va s'aider mutuellement dans un autre champ. Donc, ça crée une notion de réciproque. Donc, on passe du collectif au réciproque. Dans certains cas, ces morphèmes vont jusqu'à se diversifier pour devenir des réfléchis, mais c'est beaucoup plus rare. Et ce qui est intéressant, c'est que si on compare ce qui se passe dans d'autres familles de langues, dans les langues indo-européennes, la source du réciproque n'est pas du tout un collectif, c'est un réfléchi. Donc, c'est complètement une autre dimension. Ce qu'on reconstruit, c'est un réfléchi, et ce réfléchi se met à évoluer vers l'expression d'un réciproque. Donc, c'était intéressant de voir que dans les langues austronésiennes, l'origine d'un réciproque était un collectif et non pas un réfléchi, comme dans les langues indo-européennes. Voilà ce que je peux dire rapidement sur les quelques travaux que j'ai pu faire.
Dans le début de votre réponse, vous avez parlé d'utilité en lien notamment avec les grammaires et les dictionnaires. Donc, on peut bien entendu s'imaginer l'utilité de telle production. Ça me fait penser à ce que ça peut signifier pour vos interlocuteurs sur le terrain, les populations avec lesquelles vous avez travaillé, les populations dont vous avez étudié la langue. Est-ce que vous avez des retours éventuellement sur la façon dont vos travaux ont été reçus, perçus par les populations avec lesquelles vous avez travaillé?
Oui, alors quand le dictionnaire du Nelemwa a été publié, une des personnes avec qui j'avais beaucoup travaillé, quand j'y suis retournée donc plusieurs années après, peut-être 6 ans après, parce que je commençais à travailler sur le Yuanga, une autre langue qui est parlée plus au sud, mais je suis allée dans le village où j'avais travaillé, et j'ai revu, donc 6 ans après, les gens avec qui j'avais beaucoup travaillé, dont l'un était le chef du village. Et la première chose qu'il a faite quand il m'a vue, il est allé chercher le dictionnaire, il me l'a montré, il m'a dit, tu vois, il a beaucoup été utilisé. Et effectivement, le dictionnaire avait été, voilà, on voyait qu'il avait servi et qu'il était utilisé. Et ça, je veux dire que c'était la chose la plus agréable, voilà, de savoir que, ben voilà, non, c'était pas juste un objet qui était sur une étagère, mais que c'est quelque chose qu'il utilisait. Et il m'a dit que ça lui était très utile pour retrouver des mots et qu'il était évidemment très content d'avoir ce dictionnaire. Alors, je dois dire que les grammaires, c'est quand même un petit peu plus compliqué à utiliser. Ce sont plutôt les enseignants qui l'utilisent. Mais lui n'était pas un enseignant, c'était pas un pasteur, c'était simplement quelqu'un qui voulait que cette langue ne se perde pas et qu'elle soit préservée. Et il s'en servait. Donc, il s'en servait pour faire des discours, pour traduire des chants, des choses comme ça, des choses du quotidien. J'ai juste une petite anecdote. quand on travaille aussi avec les gens pour des langues qui n'ont pas d'écriture bien établie, donc ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de trouver un système d'écriture qui reflète vraiment la manière dont la langue est parlée. Parce que très souvent, ils empruntent l'alphabet romain, notre alphabet, mais en utilisant des styles d'écriture qui sont liés à d'autres langues. Alors, c'est souvent à cause de la Bible, ça. Et parce que la Bible est souvent une Bible dans une autre langue de Nouvelle-Calédonie. Mais donc, ils ont emprunté le même système graphique, mais pour des phonèmes qui ne correspondent pas. Et donc, quand on travaille ensemble, on essaye de trouver des symboles graphiques, donc des lettres, qui correspondent mieux à des phonèmes de la langue, de leur langue telle qu'elle est parlée. Donc ça, c'est ce que j'ai fait toujours en Nouvelle-Calédonie, sur les deux langues dans lesquelles j'ai travaillé. Et les gens les adoptent. Il y a absolument, à partir du moment où ça a été discuté, qu'on en a parlé, qu'ils sont d'accord, qu'ils trouvent qu'effectivement c'est une bonne solution, et donc ils l'adoptent, cette écriture-là. Alors j'ai juste une petite anecdote. Cette fois-ci, c'est sur la Miss. Donc la Miss est écrite aussi avec une écriture, notre alphabet romain. Mais on est dans une situation où la langue dominante, c'est le chinois. Les jeunes amis vont à l'école où on leur apprend le chinois. Et non seulement on leur apprend le chinois, mandarin, mais on leur apprend l'écriture chinoise. Or, il faut savoir qu'à Taïwan, le système qu'on utilise est le système ancien. Alors que en Chine continentale, on utilise depuis Mao un système simplifié, justement pour permettre l'accès plus facile à la population à un système de symboles graphiques plus simple. Donc les caractères ont été simplifiés en Chine populaire. À Taïwan, non. Et il est hors de question de les simplifier. Donc c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Bien. Or, tout le monde apprend ces caractères-là à l'école, y compris les jeunes. Et alors, ce qui m'a surprise, c'était un jour où j'enregistrais une personne qui allait me raconter une histoire. Mais c'était une histoire un peu complexe, puis il avait un petit peu peur. Il était un peu nerveux, il avait peur d'oublier des parties ou d'oublier des éléments. Donc il avait pris un certain nombre de notes pour pouvoir s'y reporter s'il perdait un peu pied, ce qui arrive fréquemment quand on parle. Et à un moment, donc, je voyais qu'il regardait vraiment ce texte, écrit donc en chinois, en caractère chinois, et pour parler. Et donc, à la fin de l'enregistrement, je lui dis, mais je ne suis pas capable de lire du caractère cursif comme ça. Je lui demande, mais est-ce que c'est du chinois ce que tu écrivais là ou c'était de l'amis? Et il me dit, non, c'est du chinois, ce qui m'a été confirmé par une personne chinoise. Donc ça veut dire qu'il écrivait en chinois, avec les caractères extrêmement complexes du vieux système, et il faisait de la traduction simultanée pour raconter son histoire. Et ce dont je me suis aussi rendu compte, c'est qu'eux me voyaient transcrire les histoires en alphabet romain et ne sont absolument pas à l'aise avec l'alphabet romain. C'est-à-dire qu'en fait, eux trouvent très complexe de voir leur langue transcrite en alphabet romain et ça suppose un effort. Alors, sans doute pas un effort aussi violent que moi pour apprendre les caractères complexes du chinois, mais ça demande quand même un effort et la jeune génération s'y met. Mais les anciens préfèrent passer du système doux, c'est-à-dire ils écrivent en chinois et ils parlent ensuite en amis. Voilà, donc c'était quelque chose qui m'a beaucoup interloqué et intéressé en amis. Voilà. Sinon, le principe elle-même, l'écriture qu'on choisit est une écriture fondée sur la phonologie de la langue, c'est-à-dire qui représente le mieux possible le phonème tel qu'il est prononcé. Voilà. Et donc, pour les phonèmes un peu spéciaux, on prend des caractères un petit peu spéciaux sur lesquels tout le monde s'est mis d'accord.
Avant de clore cet entretien, Isabelle Bril, j'aimerais évoquer avec vous le LABEX EFL auquel vous participez. Alors, LABEX EFL, ça veut dire Laboratoire d'excellence, fondement empirique de la linguistique. Est-ce que vous pourriez nous raconter brièvement ce qu'est ce LABEX EFL? Et peut-être nous préciser le rôle que vous jouez, vous, dans ce LABEX.
Mon rôle maintenant se limite à être un participant actif du LABEX. Le LABEX a pris un peu la suite de la Fédération Typologie d'une certaine manière, et le LABEX EFL promeut au moins dans un de ses axes la linguistique telle que nous la pratiquons, c'est-à-dire la linguistique de terrain. Et simplement, la seule chose qui est différente, c'est que ça nous permet d'interagir avec des collègues en dehors de nos propres labos, et ça nous permet d'interagir avec des collègues grâce au financement que ça apporte à l'international. Et donc, ça crée une synergie qui est plus grande et plus vaste que celle qu'on a dans nos labos. Et c'est quelque chose qui est tout à fait indispensable. C'est le LABEX qui a financé pratiquement l'intégralité, pas tous, mais presque tous mes terrains à Taïwan sur la MIS, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental, mais c'est aussi fondamental pour promouvoir nos recherches et nous mettre en synergie les uns avec les autres sur des thèmes de recherche particuliers. Donc, il suffit d'aller sur le site du LABEX pour se rendre compte de l'étendue d'abord, il y a plusieurs axes, et dans notre axe à nous, l'étendue des domaines de recherche qui sont mis en place par tous les chercheurs qui en font partie. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
Tout à fait.
Bon.
Et une toute dernière question, et on conclura sur cette question-là. Je voulais vous demander, à ce stade de votre carrière, quel bilan vous tirez de ce que vous avez réussi à développer, à mettre en place au cours de vos expériences, les points positifs d'une certaine façon, et puis éventuellement, les enjeux qu'il resterait à relever, les défis éventuels qui resteraient à relever sur les langues austronésiennes.
Alors, pour le bilan, je dirais que, en tant que linguiste de terrain, ma vie n'aurait pas été la même si je n'avais pas été linguiste de terrain. Pour moi, ça a été un enrichissement personnel et scientifique totalement incroyable. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé faire du terrain en Nouvelle-Calédonie, à Taïwan. C'est quelque chose, c'est ma vie. Et c'est quelque chose qui m'a énormément enrichi. Alors, je voudrais en profiter à ce point-là pour remercier justement toutes les personnes et tous les locuteurs qui m'ont accueilli dans leur village, dans leur maison, qui ont accepté de travailler, de collaborer avec moi, qui m'ont offert leur amitié. C'est quelque chose qui est absolument essentiel pour moi, à la fois en Nouvelle-Calédonie et à Taïwan. Et j'espère que les dictionnaires et les grammaires seront aussi une façon de dire merci, de remercier et de faire en sorte que ce soit utile. Voilà, ça. Alors les défis maintenant. Les défis, c'est que je pense qu'il faut continuer à former de jeunes chercheurs pour prendre la relève. Parce que on est loin d'avoir fait le tour de la question des langues austronésiennes. Il reste beaucoup de langues qui sont méconnues. Beaucoup de langues vont disparaître. Le processus est déjà en cours, mais ça va poursuivre. Or, pourtant, c'est important de pouvoir documenter le plus de langues possible pour comprendre, parce que souvent, ces langues, ça peut être des chaînons manquants pour comprendre des évolutions au sein d'un groupe, par exemple, ou simplement montrer la diversité de ces langues telles qu'elles existent dans cette famille. Et donc, il reste beaucoup à faire, et donc... Et donc, il faut qu'il y ait des jeunes linguistes et de jeunes chercheurs qui puissent faire ça. Et donc, il est vraiment très important de continuer à les former, mais à les financer également, pour que ce genre de recherche puisse se poursuivre et donc que nos connaissances augmentent et soient de plus en plus fines dans ce domaine.